on parle de ce nouvel album Musique bretonne aux confins du XVIIIe siècle, d'après le manuscrit de Joseph Mahé et l'œuvre d'Olivier Perrin, que l'on doit à Roland Becker. Roland, bonjour.
Bonjour.
Roland, un bel ouvrage, je dirais, de cet album que vous venez de faire paraître, Musique bretonne aux confins du XVIIIe siècle, avec deux personnages que vous introduisez à travers leur musique et leur peinture.
Oui, plus exactement, c'est moi qui m'invite en fait dans cette époque de la fin du XVIIIe siècle où Mahé, qui est le premier collecteur de musique populaire bretonne, de musique bretonne, il a noté des airs dans les campagnes du Pays de Vannes, du Morbihan bretonnant, mais aussi du Morbihan gallo. Et en fait, ce Joseph Mahé en fait, n'était pas seul à s'intéresser déjà aux traditions, puisque parallèlement, il y avait Olivier Perrin qui, lui, collectait à sa façon aussi. Il était peintre et il est le premier collecteur de scènes paysannes. Il a été le premier à dessiner, graver, peindre des paysans en fait, lors de fêtes, de pardons, de fêtes de l'air neuf, de mariages, etc.
Alors, ils ne se sont jamais rencontrés, mais...
D'après ce que je crois comprendre, ils ne se sont jamais rencontrés. En même temps... j'ai l'impression que si, pourtant, parce qu'ils font exactement la même chose. Quoi. Puis surtout, ce sont des précurseurs. Quoi. Olivier Perrin, certains le nomment les spécialistes de la peinture en Bretagne, je pense entre autres à Denis Delouche, parle d'un Bruegel breton. Et Mahé est considéré un peu comme le Bartok avant l'heure de la musique bretonne, puisqu'il est le premier à noter. Beaucoup après se sont intéressés à la littérature bretonne, mais lui, il s'est intéressé essentiellement à la musique. Il a noté 285 airs. Et en fait, ces deux personnages, en fait, oui, en effet, sont les précurseurs. Mahé, donc, premier collecteur breton de musique paysanne, on peut dire comme ça, et Olivier Perrin, premier peintre breton du monde paysan. En fait, les deux, en fait, ont fait la même chose, un à Vannes et l'autre à Quimper. Un dans le Morbihan, l'autre dans le Finistère.
Alors, c'est un manuscrit que vous connaissiez déjà depuis très longtemps, mais qui était resté finalement un peu dans l'anonymat. Et comment s'est fait cette rencontre
Ça a été assez intéressant, puisque même émouvant, puisque dans un premier temps, j'ai fait le Condarbobl en 1974, et les membres du jury, entre autres Polygue Monjarret, qui est le grand général des Bagadoux, comme on disait, le général des Bignoux, et un prêtre qui était recteur de Baden, l'abbé Derian, m'ont dit « Oui, on sent que tu es intéressé par les musiques bretonnes anciennes. On a quelque chose à te proposer. On a un manuscrit. » Ils m'ont donné une copie, en effet, en 1974, du manuscrit de Mahé. 285 airs bretons collectés à la fin du XVIIIe siècle, aux confins du XVIIIe siècle. Pour moi, c'était... J'étais gamin, hein, j'avais 16 ans. Hein. Pour moi, c'était une montagne, en fait. Alors à l'époque, bon, j'avais pas la culture, la connaissance du travail derrière et aussi l'imprégnation de la musique traditionnelle bretonne pour être capable de déchiffrer, bon, jouer les notes, oui, mais de ce qu'il y a derrière, pas forcément, afin de redonner vie à ces partitions-là. Donc ça a traîné, ça a été rangé dans un tiroir et puis il a fallu attendre les années 90 pour que je m'y intéresse vraiment, 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 quoi.
Et comment on travaille justement sur ce manuscrit? Parce que, comme vous dites, il y a 285 airs, donc il faut en mettre, il y en a 12 hein, sur l'album, oui, il faut faire le choix.
Dans l'album Musique bretonne aux confins du XVIIIe siècle, là, dans cet album, il y a 12 plages, mais dans chaque plage, il y en a 3-4. Bon, ça fait grosso modo près d'une quarantaine de morceaux choisis dans les 285. Et l'idée, c'était de retranscrire les airs pour en faire des suites de danse avec Undro, Laridé, des choses qu'on connaît, les noms qu'on donne aujourd'hui, quoi, parce que Mahé ne parle pas d'Undro ni de Laridé, il n'y avait pas les noms a priori à l'époque. Lui parle de bretonne. Hein. Et nous, en fait, là-dedans, on retraduit en fait, ce qu'il a noté et on retrouve les airs d'Undro, Antierdro, Laridé, Laridé Gavotte aussi, puis aussi des airs du Pays Gallo, des danses du Pays Gallo avec. Les fameuses pilées menus, ce qu'on appelle aussi Ronde Saint-Vincent, toutes ces danses en fait, qui sont nommées aujourd'hui, mais pas depuis longtemps finalement, c'est que d'après Guilcher, depuis vers les années 1890, qu'on nomme ces danses comme ça. Quoi. Mmh. Undro, c'est le tour, c'est la ronde, comme dans, en Centre-Bretagne, en Crèze-Brèze, on parle de danse trop. Tout ça, c'est la même chose. Tout ça, c'est trop, dro, la ronde, comme on dit partout en Europe occidentale. Quoi.
Mais comment Joseph May, justement, a été amené à collecter justement tous ces airs
Bah ça, c'est quand même assez curieux, parce que bon, Mahé, c'est un prêtre qui va devenir chanoine, etc. Bon, c'est l'érudit morbihanais du début du 19e siècle. Il est très, très considéré, autant par le clergé que par les blancs, que par les rouges. Le préfet du Morbihan, le comte de Chazelles, tout le monde le connaît, le cours Chazelles à Lorient, le comte de Chazelles lui commande un livre qui va être publié en 1825. Et dans ce livre-là, il y a 40 petites partitions, donc un tout petit extrait du manuscrit des 285 airs. Ça montre bien que il y tient à ce collectage. Alors comment il a pu d'abord il est prêtre, ça c'est la première des choses, donc ça veut dire qu'il sait écrire, et il sait écrire la musique, il a appris la musique, le chant grégorien, etc. Il est allé faire des études au séminaire, etc., au grand séminaire de Vannes, hein, qui était là où est le Monoprix maintenant. Il a été détruit en 1962, ce séminaire. Là où était rue du Menet, voilà, c'était là, en fait. Là, juste dans le coin, dans l'angle de la rue, là où était le Monoprix de Vannes. Mmh. Et donc, il a fait ses études là, puis il est devenu prêtre, il est parti recteur à Kervignac pendant une année. Ensuite, il est rentré sur Vannes en 1789, où il a passé un peu plus d'un an recteur de la paroisse Saint-Salomon à Vannes. C'était une des paroisses qui a été détruite à la Révolution. Et en 1790, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de prêtres, il s'est caché pendant cette période de la Révolution, la Terreur, etc. Particulièrement dans le pays Ventais, les prêtres étaient vraiment contre... le fait de signer la constitution civile du clergé. Il ne voulait pas devenir fonctionnaire de la République, je résume. Donc, beaucoup se sont exilés, beaucoup sont partis, entre autres en Espagne, ensuite en Suisse, en Angleterre, en Allemagne. Mais lui, il n'est pas parti, il est resté, il s'est caché, mais bon, il a souvent été emprisonné. Il a passé quand même 36 mois en prison, à Vannes. Mais il s'est caché aussi au château de Saint-Léry, chez son ami Desgrais du Loup, qui aura pour petit-petit-petit-fils le créateur de Ouest Éclair, qui va devenir Ouest France. Donc, tout ça, c'est une grande famille. Donc, donc il a les notions de solfège, etc. Et il a noté des airs paysans, en fait, lors des travaux, lors des fêtes, etc. Il a noté. Donc, en fait, moi j'essaye, dans ce disque, de reprendre l'idée de Mahé. C'est-à-dire que je me mets à la place d'un type qui, à la fin du XVIIIe siècle... entend des airs populaires joués par des bombards, des biniots, des violons, etc. Et donc, en fait, je me dis, mais dans quel contexte il a pu entendre ces airs-là? Il a noté, bien sûr, mais il a noté quoi? Il n'est pas allé au concert à la salle des fêtes de Pontivy, par exemple, ou au Palais des Arts de Vannes, ou au Grand Théâtre de Lorient. Il a noté ces airs-là dans le Morbihan, mais dans quelle situation? Tout simplement les fêtes. Il a dû entendre des musiciens au port de Vannes, lors d'une fête devant un moulin, dans une noce, des gamins qui chantent en breton, bien évidemment, à l'église, etc. Et je me fais une sorte de grand listing, en fait, pour en faire ensuite un synopsis, comme dans le cinéma, et je recrée, en fait, les différentes ambiances, les différents paysages sonores, pour créer un film sonore, pour créer comme un reportage, en fait.
Oui, puisqu'on entend beaucoup de sons. Hein,
oui, en fait, autres... c'est pas que des instruments bien enregistrés dans un studio. Ils ont été bien enregistrés en studio avec des bons micros, etc. Moi, j'ai un studio chez moi, en fait. Et dans un deuxième temps, l'idée, c'était de salir, en quelque sorte, ces enregistrements pour ajouter de l'air, de la pluie, du vent, une foule, une course de chevaux, une noce, un cabaret avec des gens qui dansent. Il y a beaucoup d'exemples en fait d'ambiance sonore en fait que j'intègre à la musique. Ça me semblait important que de resituer et non pas faire un catalogue d'air. C'était absolument pas le but en fait, le catalogue d'air. Bon, c'est triste, mais Et puis surtout, ça n'avait pas rêvé. Moi, j'ai besoin de rêver. Et puis pour faire rêver les gens aussi, j'ai besoin de rêver. Donc, j'étais plus parti dans le film. On suit Mahé, donc aux confins du XVIIIe siècle, et on s'invente un voyage dans le Morbihan. Et tout ça étant aidé en plus par les illustrations de Perrin, qui finalement reflètent parfaitement les ambiances du disque. Donc, à un moment, on ne sait plus si c'est Perrin qui a dessiné d'après ce que j'ai enregistré, ou si c'est Mahé qui a entendu les musiques en regardant les images de Perrin. Bah, c'est un ensemble d'images et d'images sonores qui fait qu'on se retrouve vraiment, j'invite vraiment le public à écouter ce disque, parce que je pense qu'on est allé plus loin que la musique, qu'on invente vraiment un reportage, on invente vraiment un album photo et de photos sonores, donc, pour ce disque. Et puis surtout, le disque, c'était quelque chose d'important pour moi, mais c'était aussi l'occasion de faire un beau livret. Bon, c'est assez exceptionnel. On a bien travaillé avec Cobrez. On a fait un livret de 92 pages dans lequel on présente justement l'œuvre de Perrin. Donc ça assoit encore mieux l'idée de la musique. C'est pas seulement qu'un disque de studio, quoi, ou un disque enregistré avec des musiciens. Alors les musiciens, il y en a 60. En fait, en tout, il y a 65 personnes qui ont travaillé sur ce projet-là.
On va y revenir tout de suite. Ouais. Roland, on va écouter d'abord un morceau.
Ah bah oui.
Hein, ça, on
Faisons
a choisi
découvrir.
Gwilliat, c'est Danse sur une nouvelle ère. Un petit mot sur ce morceau.
Oui, bah voilà un exemple d'ambiance sonore. On est à la ferme et puis il faut refaire la cour, l'air à battre. Donc plutôt que de travailler avec des machines, bah, on invite tous les voisins, tout le voisinage à danser tout un dimanche après-midi. Après avoir bien mouillé le sol, on piétine, on danse la ridée, ou on danse gavotte, ou on danse une drô, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on se retrouve dans une situation où en fait les danseurs joignent l'utile à l'agréable.
On écoute.
Thank you.
Roland, on continue à parler de cet album, Musique bretonne aux confins du XVIIIe siècle, d'après le manuscrit de Joseph Mahé, l'œuvre d'Olivier Perrin. On a écouté un premier extrait de cet album. On parlait de tous les musiciens que l'on retrouve dans cet ouvrage. Une soixantaine,
Oui, 65 personnes ont participé à ce travail-là. 7 ans de boulot, beaucoup de plaisir, beaucoup de rencontres. Et donc, des musiciens, je ne vais pas citer tout le monde, mais c'est pas, il n'y a pas que des musiciens, il y a aussi des chanteurs, il y a aussi des comédiens, et puis aussi des gens très importants dans l'équipe, ce sont les facteurs d'instruments qui ont justement œuvré à copier des instruments anciens, à retrouver en fait les instruments qu'on jouait aux confins du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que les fameuses bombardes qu'on connaît aujourd'hui sonnaient entre autres dans les bagadous, des instruments qui font environ 32 cm, je crois, une bombarde de bagade, n'existaient pas vraiment à cette époque-là. C'était des instruments beaucoup plus grands, beaucoup plus longs, beaucoup plus graves. Et même chose pour les binious, même chose pour les tambours. C'était absolument pas des caisses de bagade ou de rock qu'on connaît aujourd'hui avec des peaux plastiques, etc. Tous ces instruments, tous ces tambours étaient joués avec des peaux d'âne, peaux de vachette, de veau, etc. Avec de la peau naturelle, bien évidemment. Donc, on est dans une autre sonorité, une autre ambiance sonore, là aussi, par les instruments qu'on joue. Entre autres, par ces bombards qui sont beaucoup plus longues et beaucoup plus graves.
Mais cette musique que jouaient, justement, ces sonneurs, elle a été dépréciée
oui,
à une époque.
Oui, c'était depuis le Moyen-Âge. Ouais. Les instruments, bien évidemment, depuis le Moyen-Âge, on connaît en Bretagne, entre autres, mais partout en Europe, ces instruments de sonneurs, les cornemuses et les hautbois, qu'en Bretagne, nous, on appelle le biniou et la bombarde. Et puis, au XVIIe siècle, déjà à l'Église, depuis longtemps déjà, mais il y a eu des réglementations, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que c'était difficile de jouer avec ces instruments-là, parce qu'on faisait danser, donc on était considérés comme les suppôts de Satan. Ça, c'était la première chose, ça, depuis longtemps, longtemps. Hein. Et puis, est arrivée la Révolution où la musique dite officielle a écrasé aussi, encore une fois, les sonneurs, puisque jusqu'alors, si les sonneurs jouaient pour les fêtes importantes, biniou, bombarde, tambour, etc., sont arrivés les instruments de l'orphéon, les premiers instruments de l'orphéon, à savoir les trompettes, les fifres et les tambours. Il y en avait beaucoup qui étaient joués sur Pontivy, par exemple, puisque Pontivy est une ville de garnison. Et jusqu'aux années 30, 40, même 1940, on jouait fifre et tambour encore dans les pardons. C'est un truc particulier en Bretagne, dans le pays de Pontivy. On retrouve d'ailleurs des photos des années 30-40 où on voit encore les sonneurs de fifre accompagnés par les tambours pour précéder les processions des pardons dans le pays de Pontivy. Donc un tas d'instruments comme ça qui sont complètement nouveaux et à la fois écrasant complètement la musique sonnée, quoi. Donc la musique sonnée va devenir une musique par les paysans, pour les paysans, et une musique de campagne, quoi, une musique rurale, comme on la connaît. Quand on parle de la musique bretonne, souvent on dit musique paysanne. On dit ça, mais en fait, tout ça n'est pas très vieux. Au XVIIe encore, même jusqu'au début du XVIIIe siècle, c'était une musique qui était jouée autant pour les riches que pour les pauvres. C'est ça qu'il faut imaginer. Bien sûr, le Seigneur, le jour de la fête de la Saint-Jean, par exemple, danser avec ces gens, il y avait toujours les pauvres et les riches, hein, ça c'est sûr. Mais on pouvait imaginer très bien tous ces gens, là, peu importe la classe, chantant ou dansant au son du biniou et de la bombarde, avec le même répertoire, les mêmes instruments, quoi.
Un album qui, on l'a évoqué tout à l'heure, avec des superbes illustrations, et notamment ce beau bas-relief, hein, que l'on retrouve au milieu
de
l'album.
Une belle photo de Myriam Jégat, mon amie Myriam Jégat, qui encore a œuvré là. Oui, on a mis les illustrations de Perrin, et il y a quelques illustrations aussi qui montrent avant Perrin, avant Mahé, en fait, ces fameux bas-reliefs en fait des églises. Et puis quand on regarde bien, là, ça montre bien que l'église n'était pas très copain-copain avec les sonneurs, hein, puisqu'en général, quand il y a des sculptures représentant les instruments ou les instrumentistes dans les chapelles, les églises, les châteaux en Bretagne, on remarque vite que le sonneur a une tête de bouc ou une tête de cochon ou des pieds de loup, etc. C'était pour montrer le côté maléfique de la musique. musique pas appréciée par le clergé, tout simplement, parce que ça représentait la danse, le péché. Donc, de prendre la main de sa cavalière pour danser, larguer, c'était, oh là là, c'était déjà très grave.
Donc, Joseph Mahé, on peut le dire, premier collecteur de musique de tradition populaire. On peut le...
Tout à fait. Oui, oui. C'est un fait marquant, bah, c'est émouvant. Et puis, si on va même encore un tout petit peu plus loin, on peut dire que Joseph Mahé est le premier collecteur en Bretagne, mais aussi en France et même en Europe. En fait, il est l'un des premiers, peut-être même le premier, je pense. Hein, je crois que je ne dis pas une bêtise. Oui, c'est quelque chose de très, très émouvant et de très important de resituer ça dans le contexte. On est juste après l'ancien régime et en fait, on a un personnage, il n'y en a qu'un en Bretagne, qui va noter tous ces airs populaires-là. Et là, on a une trace, en fait, de ce qu'on pouvait attendre avant la Révolution. Mahé, en 1800, il avait 40 ans, hein, donc il connaissait bien déjà... il avait une idée précise de ce qui s'était passé avant 1789. Il avait 29 ans en 1789. Il est né en 1760. Alors c'est marrant parce que Mahé est né en 1760 et Olivier Perrin, lui, il est né en 1761. Et donc on a vraiment deux contemporains à un an près. Mahé avait 40 ans en 1800, Perrin avait 39 ans en 1800. Et donc ils ont vécu vraiment... une période de transition comme nous on vit d'ailleurs en ce moment. Hein. Je pense que c'est très comparable. Eux, ils étaient dans l'imprimerie, dans les nouvelles techniques et puis bon, une nouvelle politique de la Révolution. Nous, en fait, on est passé à Internet. Je pense que c'est un peu comparable. Comme à la Renaissance, la création de l'imprimerie.
Roland, on pourrait parler encore très longuement de cet album, mais on va laisser les auditeurs le savourer. Vous avez déjà fait plusieurs dédicaces. Hein. Comment le public reçoit cet album ?
Ce qui est vraiment très intéressant, moi ça me passionne, c'est qu'il y a un partage. Quoi. Je ne vais pas seulement dédicaces pour vendre des livres. Et je me rends compte que les gens s'approprient le disque comme leur patrimoine. C'est ça qui est important. On est à la recherche, on voit bien de plus en plus dans les mairies, on voit des gens qui font leur arbre généalogique, etc. On est à la recherche de notre passé, ça c'est sûr, parce qu'on sent bien qu'on est de plus en plus, d'année en année, déraciné par beaucoup de choses. Les gens cherchent leur passé et la meilleure façon de trouver le passé, bah, c'est d'aller vers l'art. Quand on voit l'art dans les chapelles, par exemple, on voit le succès que ça peut avoir parce que les gens sont à l'affût de tout ça et les gens sont à l'affût de ce qu'ils aiment de leurs ancêtres, parce que c'est eux. Et en fait, on a besoin de ça. Moi, je suis sûr qu'on a... Alors moi, quand j'avais, avant de faire de la musique, avant l'âge de 11 ans et demi, j'avais qu'une idée en tête depuis l'âge de 6 ans. Je voulais faire antiquaire. Bah, je finis par devenir un petit peu antiquaire, à ma façon.
Roland, d'autres rendez-vous pour nos auditeurs, des dédicaces à venir
là, j'ai pas l'agenda non. À tête, mais allez sur Facebook et vous voilà. Allez avoir tout ça. Oui, mais je me balade pas mal à Vannes, à Rostronin, à Quimperlé, à Concarneau, à Quimper. Je sais plus, je n'ai plus les dates.
Est-ce qu'il y aura des concerts à venir ?
Alors, il n'y a pas de concert prévu pour le moment, parce qu'en ce moment, on est en train de travailler sur le spectacle. On avait fait un premier jet... pour la présentation du nouvel album, ça c'était le 3 octobre à Amzernévé, au Centre culturel breton à Pleumeur. Et puis on est en train de travailler sur une nouvelle formule. Là. On sera au printemps de Châteauneuf, on va être à la Mission bretonne à Paris, il y a déjà quelques dates qui se dessinent. Là. Mais dans un premier temps, moi ce que je voulais faire là, ces temps-ci, c'était de faire connaître ce disque. Puis en parallèle aussi, le livre qui vient de sortir à la même période, le livre sur les Sœurs Guadec.
Dont on a parlé avec vous.
Exactement.
On va se quitter en musique. On a choisi Luguernus.
Oui, c'est bien ça. Alors, Luguernus, c'est une plage du disque qui n'est pas du tout avec le Bignoul et la Montmartre. Là, il n'y a que des violons et un peu de tambour.
On ne se quitte pas tout à fait, Roland Becker, puisque vous serez notre disque de la semaine. Donc, on vous écoutera tout au long de cette semaine et on découvrira d'autres morceaux de cet album. Je rappelle son nom, Musique bretonne aux confins du XVIIIe siècle, d'après le manuscrit de Joseph Mahé et l'œuvre d'Olivier Perrin. Roland Becker, merci.
Merci, Kenavo.